Donc, la vie spirituelle est possible grâce à la conditionnalité, ce qu'on appelle la conditionnalité. J'espère que tout le monde maintenant est familier au moins avec cette idée de conditionnalité. L'idée que toutes choses dépendent pour leur existence des conditions. Et ça fait, si vous avez appris le Dharma ici, vous savez que ça c'est axiomatique, c'est le centre, c'est le cœur du Dharma, ce fait de conditionnalité, que toutes choses sont conditionnées. Et que c'est en voyant ça que nous arrivons à l'éveil, nous arrivons à voir les choses telles qu'elles sont et nous nous libérons de la souffrance que notre ignorance nous cause sinon. Mais c'est pas la seule utilité de cette vision des conditions. La compréhension de la conditionnalité, c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer. C'est parce que nous savons que les choses dépendent des conditions que nous pouvons commencer à changer des conditions pour chercher à avoir les résultats que nous souhaitons, pour chercher à avoir une vie que nous souhaitons vivre, que ce soit les conditions de notre vie, installer une salle de méditation, installer une pratique de méditation régulière, commencer à fréquenter d'autres personnes qui pratiquent la méditation et le bouddhisme, que ce soit nos états d'esprit, travailler nos états d'esprit pour favoriser des actions plus bénéfiques à nous-mêmes et les autres. Ça, c'est jouer avec des conditions, c'est commencer à maîtriser, à comprendre et maîtriser la conditionnalité pour nous aider à évoluer. Donc c'est là où tout commence. À chaque fois qu'on parle du Dharma, il faut revenir aux conditions, et pareil pour notre système de méditation. Et en fait, le Bouddha a juste parlé de pratityasamutpada, de la conditionnalité, la coproduction conditionnée, souvent ça s'appelle aussi. Et plus tard, après sa mort, il y avait une autre analyse de cette loi, plus détaillée. J'imagine que les moines commençaient à se débattre d'accord. En fait, ils aimaient, ça, je crois que ça fait partie de l'esprit indien, ils aimaient catégoriser des choses, ils aimaient découper l'expérience dans des différentes parties, dans des différentes catégories. Donc il y a des listes et des listes, des états d'esprit, des états méditatifs, de ceci et cela, de type de personnalité et tout le reste. Et en fait, ils ont fait la même chose avec ce processus de conditionnalité. Ils ont dit, ben voilà, les choses dépendent des conditions. Comment ça se fait? Quel est le mécanisme, si vous voulez? Ils ont proposé 5 mécanismes, 5 processus qui s'appellent Niyama, N-I-Y-A-M-A-S, pour ceux qui prennent des notes. Les Niyama, c'est marqué sur un des feuilles. Je vais vous présenter les feuilles un peu plus tard, mais... Donc, il y a 5 niyamas ou 5 processus par lesquels la conditionnalité marche, fonctionne. Et je vais vous lire des définitions de ce bouti parce que je trouve que c'est traduit par Ujjumani. Je trouve que c'est tellement bien que je ne voulais pas essayer de le faire mieux moi-même. Donc là, d'abord, c'est quelque chose qui s'appelle le Utu Niyama. Et je ne vais pas traduire les termes. Je vais juste vous dire ce que c'est. Utu Niyama, c'est la somme totale des règles trouvées dans la matière physique non vivante. Donc c'est la physique, c'est tout ce qui est physique non biologique, non vivante. C'est le sujet des sciences de la physique et de la chimie. Les conditions qui gouvernent le royaume minéral. Cela inclut donc les lois de la gravité, de la thermodynamique, les lois gouvernant les réactions chimiques, l'électricité, la structure des atomes et tout cela. Tout ce qui est physique, chimique. Ça, c'est le Utu Niyama. Donc, ça, c'est en quelque sorte, c'est le plus basique. Bon, je ne sais pas si c'est plus basique que celui qui vient, mais ils viennent ensemble un peu. Qui est le Bija Niyama. B-I-G-A-J-A. Niyama, qui est fait de toutes les relations conditionnées qui s'appliquent aux organismes vivants, au royaume des plantes et des animaux. Donc c'est le sujet de la biologie, de la botanique et de la physiologie. la photosynthèse, la transmission génétique et la circulation du sang sont des exemples de ça. Donc voilà, tout ce qui se passe dans notre corps, si vous voulez, tout ce qui se passe dans la nature autour de nous, dans ce qui est vivant. Et puis après ça, il y a ce qu'on appelle le mano-niyama. Et mano, c'est un des mots en pali ou en sanskrit, je crois que c'est en sanskrit à ce moment-là, qui parle de l'esprit. Il y a beaucoup, beaucoup de mots qui parlent de l'esprit. Et ça, c'est un des mots qui est lié à l'esprit. Mais ce n'est pas juste l'esprit, c'est la somme des règles qui ordonnent le royaume animal, lequel est fait de tous les organismes qui ont une perception sensorielle. Donc il était étudié par la zoologie et une grande part de la science du comportement. Donc on y trouve les processus de perception, les réflexes, les réactions de réponse aux stimuli et les instincts. Ils sont inclus aussi des réponses très complexes et intelligentes comme les remarquables instincts migratoires et des stratégies de survie apparemment très astucieuses. Donc ce n'est pas encore l'esprit conscient, ce n'est pas encore l'être humain, c'est tous les instincts, tout ce qui fait fonctionner les animaux et nous en tant qu'animaux, qui n'est pas de l'ordre physique ou biologique en fait, tout ce qui est plus subtil, plus lié à l'esprit ou aux nerfs ou au système nerveux et tout ça. Donc ça c'est le mano niyama. C'est fascinant hein, qu'ils avaient tout ça déjà il y a 2000 ans, quelque chose comme ça. J'imagine que ce serait 500 après la vie du Bouddha. Donc, tous ces trois niyamas sont à l'œuvre en nous. Nous sommes faits de ces processus. Et c'est comme ça qu'en tant qu'être humain basique, nous fonctionnons. Ça gouverne notre corps, notre intelligence sensorielle et instinctuelle. Et en fait, si vous voulez regarder la première le feuille qui est comme ça, avec la triangle, ça fait partie de ce que Sangharakshita appelle l'évolution inférieure. Donc en fait, ce qu'il a fait là, c'est il a pris, c'est un autre bon exemple de ce qu'il fait en fait. Le Bouddha n'a pas parlé en termes d'évolution, parce qu'ils n'avaient pas l'idée d'évolution à l'époque. Ça c'est quelque chose de notre jour, de nos jours. Donc Sangharakshita a utilisé la vision moderne de l'évolution des spécies et de l'homme. Il a pris ça, il a utilisé ça comme modèle pour la vie spirituelle. Donc il a parlé de ce qu'il appelle de deux parties. Commençons avec le zéro, l'amoebe, comme ça c'est comme ça on dit en français, l'amibe. Voilà, commencer avec zéro. Et puis, il y a la première partie, c'est ce qu'il appelle l'évolution inférieure. Donc, c'est tout ce qui, l'évolution biologique, physique, etc., et qui nous mène à l'être humain, qui est quelque part à peu près au milieu. C'est pas exact, c'est pas une science exacte, ce diagramme. Donc là, on trouve les trois premiers niyamas, les trois premiers niveaux de processus, organique, le physique et non organique, et tout ce qui est instinctuel et tout ça, sensoriel. Et les deux autres niyamas font partie de ce qu'on appelle l'évolution supérieure. Donc c'est la deuxième partie plus haut qui mène vers l'infinité, vers l'éveil. Et en fait, c'est les deux derniers niyamas dont je vais parler maintenant qui rendent possible l'évolution supérieure. Ce dont je vais vous parler maintenant, on serait coincé comme des animaux, en fait. Donc, c'est l'évolution de l'esprit conscient et les processus qui viennent avec ça, qui nous aident à progresser. Donc, la première, ce qui s'appelle le kama niyama. Ou karma niyama. Kama c'est pali, K-A-M-M-A. Et karma, c'est sanskrit K-A-R-M-A. Donc vous avez entendu le mot karma, qui veut dire action, qui est associé au fait que nos actions ont des conséquences pour nous. Donc on commence à voir que là, on peut commencer à avoir un peu d'emprise sur la situation, on peut faire quelque chose. Tout le reste, on n'a pas de capacité à agir sur les trois premières. Donc kama niyama, ça entre en jeu quand l'intelligence devient autoréflexive, quand on devient capable de former une idée de soi en tant que centre d'action et d'expérience. Donc c'est l'étape de l'être humain. Et c'est fait des règles qui sont trouvées dans la relation entre l'agent conscient de lui-même, donc la personne qui sait ce qu'elle fait, et les effets de ses actions, que ce soit des actions de corps, de parole ou d'esprit. Là, on trouve la façon de voir traditionnellement dans le bouddhisme que nos actions comprennent le corps, la parole et l'esprit. Donc le karma niyama, c'est le niveau de l'éthique, c'est le terrain de l'éthique. C'est là où on décide d'agir avec des actions habiles ou mal habiles, des actions qui sont bénéfiques ou des actions qui sont plutôt maléfiques pour nous et pour les autres. Donc ça, c'est familier, c'est le domaine des cinq préceptes, de prendre conscience de nos actions et d'essayer de faire mieux à travers nos actions. Et donc en faisant cela, nous changeons déjà, nous commençons à évoluer déjà, nous commençons à prendre en main notre destin en quelque sorte, en allant vers quelque chose de plus positif, de plus créatif. Et puis on trouve le Dhamma Niyama, et pareil, on parle D-H-A-2-M-A, Dhamma, et en sanskrit D-H-A-R-M-A, Dharma, c'est le même mot. Qui, selon Sangharakshita, comprend les processus conditionnés au moyen desquels apparaissent les Bouddhas. Donc, c'est encore des processus de conditionnement, c'est encore des processus, mais c'est moins à notre portée, mais si ça dépendait juste de karma, apparemment, les Bouddhas n'apparaîtront pas. Donc, c'est les processus qui permettent l'apparence des Bouddhas. Ces processus sont en particulier représentés par la séquence des facteurs positifs qui apparaissent à l'entrée dans le courant. Donc pour ceux qui se souviennent de le chemin en spirale, il y a un point où on arrive à l'entrée dans le courant, il y a des facteurs positifs qui vont à partir de cela. Mais je ne vais pas entrer dans ça maintenant, c'est juste pour ceux qui peuvent, ça vous oriente un petit peu. Donc en fait... Oui, le Dhamma Niyama, ça commence à vraiment agir à partir d'un certain niveau de notre vie spirituelle. Et je vais revenir à ça. Et ce qui s'appelle l'entrée dans le courant. Donc, il y a un certain moment où, en améliorant nos actions, en améliorant nos états d'esprit, on arrive à un stade où on est prêt à être réceptif à quelque chose de plus haut, quelque chose qui est au-delà de nous, une espèce de courant qui nous porte en quelque sorte. Et c'est intéressant, on parle d'entrer dans le courant. Et le Dhamma Niyama, les processus de Dhamma Niyama, c'est un peu comme si c'est le courant. Donc il y a un autre ordre de processus qui prend le dessus à ce moment-là, et qui nous aide dans notre pratique. Et ne vous inquiétez pas, ça va être peut-être rester un peu abstrait pour l'instant, mais on va y revenir. On va découvrir ça petit à petit. Donc la conditionnalité, la pratique Tiyasamutpada, c'est le contexte dans lequel nous menons notre vie spirituelle. Et la libération pour nous est possible grâce au courant dans le flux de cette conditionnalité qui mène vers l'éveil. Donc ce modèle, ça propose en fait, la conditionnalité, c'est des processus. La vie est que des processus selon le bouddhisme, que ce soit sur le niveau physique, biologique, mental, etc., jusqu'à ce qui est dharma. Et la vie spirituelle consiste à coopérer avec ces courants. C'est là où j'ai dit, ben, si on commence à comprendre la conditionnalité, si on commence, c'est comme les oiseaux commencent à apprendre comment naviguer les thermales, les courants d'air, ils savent comment se déplacer en savant. Et c'est pareil, comme les gens qui savent faire le bateau, ils savent naviguer les courants et les vents. Et c'est la même chose, nous commençons à apprendre et comprendre les processus, ces processus de conditionnalité pour conduire notre vie spirituelle, pour vivre mieux. Donc on peut dire, oui, que la vie spirituelle consiste à coopérer avec ces courants, à commencer à naviguer les courants et les suivre, à nous laisser porter par eux. Donc je vais juste revenir à cette feuille, juste pour vérifier que la feuille de l'évolution, juste vérifier. Donc on a cette idée, bon voilà. On peut rien faire sur la première partie de la montée. Là, tout ça s'est déjà passé. On est arrivé là. On est Homo sapiens. On est homme et femme conscients, plus ou moins. Mais le reste, à partir de là, si on veut continuer à évoluer vers l'éveil, c'est à nous d'agir maintenant. L'évolution a fait ce qu'il peut pour nous. Les trois premiers niyamas ont fait ce qu'ils peuvent pour nous. Donc le karma niyama, karma veut dire action. Donc c'est à nous d'agir maintenant. Et en fait, cette deuxième partie du processus est divisée en deux, avec le karma niyama, le domaine de l'éthique, de la pratique de prise de conscience, développement des états d'esprit, d'action positive. Et puis, à un certain moment, quand notre pratique prend un élan, nous entrons dans le courant et à partir de là, notre chemin vers l'éveil est assuré. Il y a suffisamment d'élan, il y a suffisamment de clarté, de foi, de pratique derrière nous. On ne va plus faire de bêtises et on va arriver vers l'éveil si on continue, si on fait peu. C'est assuré. Si on continue à pratiquer assidueusement, on serait plus vite. Sinon, ça prendrait plus longtemps. Et là, c'est là où le Dharma Niyama commence à opérer, commence à nous porter un peu. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution supérieure. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est pour ceux qui ont étudié avec moi ou lu le papier Esprit réactif créatif, c'est là. Dans le karma niyama, où on commence à agir sur l'esprit qui sinon jusqu'à là est réactif, et on commence à pratiquer l'esprit créatif, on commence à prendre l'initiative et à évoluer. Et plus ça devient créatif, pas plus ça monte vers l'éveil. Donc on commence à retrouver plein de choses qui se rejoignent.